Vous écoutez, on lit pour vous.
Des lacunes dans les soins de santé des femmes enceintes avec un handicap. Un texte de Nicole Ireland de La Presse canadienne, paru le 28 mai 2024 dans L'Actualité. Une femme enceinte sur 8 en Ontario souffre d'un handicap, mais nombre d'entre elles sont confrontées à des obstacles sur l'accès aux soins, ainsi qu'à des attitudes irrespectueuses de la part des médecins et d'autres professionnels de la santé, selon un nouveau rapport. L'autrice principale, Hilary Brown, de l'Institute for Clinical Evaluative Sciences de Toronto, affirme que les personnes handicapées ont été négligées dans les soins de santé reproductive en raison des hypothèses sociétales selon lesquelles elles n'ont pas de sexualité et n'auront pas d'enfants. Les chercheurs ont examiné les dossiers de santé des femmes enceintes en Ontario entre 2010 et 2020, y compris les données de près de 150 000 naissances de bébés ayant une déficience physique, sensorielle ou de développement. Ces données ont montré que les femmes handicapées étaient plus susceptibles de se rendre aux urgences ou d'être admises à l'hôpital pendant leur grossesse que les femmes non handicapées. Ce que les visites aux urgences pendant la grossesse nous disent généralement, c'est qu'il y a une sorte de lacune, vous savez, qui aurait pu être comblée avec le fournisseur de soins primaires ou l'obstétricien, a déclaré Mme Brown. Les chercheurs ont également interrogé plus de 60 personnes handicapées ainsi que des professionnels de la santé. Bien que beaucoup d'entre elles aient rapporté des expériences positives en matière de grossesse, les chercheurs ont également entendu de nombreuses histoires de personnes confrontées à des attitudes plutôt négatives de la part des prestataires de soins de santé et de services sociaux à propos de leur grossesse, indique Mme Brown. Certaines participantes handicapées ont dit aux chercheurs que les infirmières et les médecins pensaient qu'elles voulaient avorter lorsqu'elles demandaient des soins de grossesse ou faisaient même des hypothèses négatives sur leur future capacité parentale. D'autres participantes ont signalé un manque d'accessibilité dans les cabinets de médecins pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un manque d'interprétation en langue des signes pendant les périodes critiques, tels que le travail et l'accouchement. Des femmes ont aussi signalé un manque de compréhension de la part des professionnels de la santé concernant leur handicap, ce qu'elles sont capables de faire et les soins dont elles ont besoin. Si les femmes avaient des questions à propos de l'impact de leur handicap sur leur grossesse ou sur les effets de la grossesse sur la progression, ou les symptômes liés à leur handicap, elles étaient souvent rencontrées par des prestataires qui ne savaient tout simplement pas où trouver ces informations, a déclaré Mme Brown. Le rapport publié mardi appelle à davantage d'éducation et de formation sur le handicap pour les médecins, infirmières et autres prestataires de soins qui travaillent avec des femmes enceintes. Il recommande également des changements dans le mode de financement des médecins pour leur permettre de passer plus de temps avec les patientes enceintes handicapées. Celles-ci ont souvent besoin de plus de temps avec leur médecin et le médecin a besoin de plus de temps pour aider à organiser des soins et des aménagements supplémentaires pour leurs patientes, a souligné Mme Brown. De nombreux professionnels souhaitaient réellement fournir des soins plus complets, mais il leur était souvent assez difficile de le faire dans le cadre de la structure honoraire dont ils disposent actuellement. Manque de connaissances et de soutien. Wendy Porch, directrice générale du Center for Independent Living de Toronto, qui faisait partie du comité consultatif pour le rapport, croit que la seule portion surprenante du rapport est que les lacunes dans les soins commencent tout juste à apparaître comme un problème important. Les parents handicapés existent depuis toujours. Nous ne sommes pas nouveaux, a-t-elle témoigné. Je pense qu'il y avait beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'intérêt à me soutenir. Mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de connaissances liées à cela. Madame Porch est née sans une partie de son bras droit et une partie de sa main gauche. Son fils Jasper a maintenant 11 ans, mais tout au long de sa grossesse, elle a essayé d'obtenir des conseils de ses prestataires de soins de santé sur la façon de tenir et d'allaiter son bébé, mais ils n'ont pas pu l'aider. Je me suis sentie beaucoup plus handicapée au cours de ces premiers mois en tant que mère que pendant toute ma vie, a-t-elle relaté. Les infirmières de l'hôpital qui surveillaient les nouvelles mamans alors qu'elles apprenaient à allaiter n'ont pas reconnu qu'elle avait des problèmes et l'ont renvoyée chez elle, a-t-elle ajouté. Des années plus tard, même si la plupart des prestataires de soins de santé sont bien intentionnés, il n'y a toujours pas suffisamment de soutien pendant la grossesse et après l'accouchement pour les personnes handicapées, a-t-elle estimé. Franchement, je ne pense pas qu'il existe une formation adéquate pour un médecin, quel que soit son type, sur ce à quoi pourrait ressembler le soutien d'un parent handicapé, a-t-elle soutenu. Je pense que le rapport montre très clairement qu'il y a beaucoup de marge de croissance là-dedans. Le rapport sur la grossesse et le handicap a été coécrit par l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, ICES, l'Université de Toronto-Scarborough et le Centre de toxicomanie et de santé mentale. C'était « Des lacunes dans les soins de santé des femmes enceintes avec un handicap », un texte de Nicole Ireland de la Presse canadienne, paru le 28 mai 2024 dans l'Actualité.
Le fabuleux destin de Charlie Rousseau, un texte de Benoît Lelièvre, paru le 7 avril 2024 dans Urbania. Tout est arrivé dans ma vie par accident, mais je suis un accident. Alors la vie fait bien les choses. Charlie Rousseau n'a pas de coude, ni de genoux d'ailleurs. Elle ne possède qu'un seul bras, avec un unique doigt et un grand total de 7 des 10 orteils qu'on observe habituellement sur un corps humain. Je ne suis pas vraiment handicapée, parce que mon corps ne m'empêche pas de rien faire, à part m'attacher les cheveux, affirme Charlie Rousseau, en riant, attablé au Café La Rue, sur la rue Jarry, par un avant-midi ensoleillé. Pourtant, malgré son incapacité à s'attacher les cheveux par elle-même, la jeune femme de 27 ans arbore une coiffure impeccable qu'elle attribue aux vertus du Dyson Airwrap, une invention qui a changé sa vie. « Je pourrais être aveugle ou en chaise roulante. Mon quotidien serait beaucoup plus complexe et limité. » En 2024, Charlie Rousseau a le vent dans les voiles. Elle vient de lancer le balado « Les backpackeuses » avec son amie et co-animatrice Pascale Rua, et elle est en vedette dans la série Vestiaire sur Ami Télé. Ah oui, elle a aussi un compte TikTok, suivi par près de 144 000 abonnés. Du haut de ses 4 pieds 2 pouces, Charlie Rousseau vit à 100 000 à l'heure. Le secret de son succès? Une détermination d'acier, forgée par d'innombrables batailles qu'elle a commencé à livrer avant même sa naissance. La définition même d'un bébé miracle. Shirley s'est longtemps demandé pourquoi elle était différente. C'était une question un peu rhétorique. Elle avait abandonné depuis longtemps l'idée d'obtenir un jour une réponse claire. Contre toute attente, cette réponse lui est venue au début de la pandémie, alors qu'elle enseignait le français au Royaume-Uni. À l'époque, on était tous un peu à fleur de peau, et le calme et l'assurance qui la caractérisent pourtant, avec lesquels elle gérait la situation, était très difficile à assumer pour son papa, qui se sentait impuissant de l'autre côté de l'Atlantique. Un conflit a alors éclaté, suivi par quelques mois de silence. Lorsque Shirley revient finalement au pays et rappelle son père pour s'expliquer, celui-ci accueille l'initiative de sa fille avec une grande joie, mais termine la conversation sur une note cryptique. Quand on va se voir en vrai, je vais te raconter la vérité sur ta vie. Tu peux pas dire ça à quelqu'un de même au téléphone, raconte Shirley en aparté. Il m'a répondu que c'était justement pas quelque chose qui se disait au téléphone. Shirley en a donc glissé un mot à sa mère, avec qui elle demeurait à l'époque. Elle n'était pas prête à en parler. Mon père l'a mise dans cette situation-là, mais elle avait besoin de cette petite poussée. Incapable d'adresser directement la situation, la maman de Shirley lui écrit une lettre de plusieurs pages qu'elle dépose dans sa boîte à lunch pour le lendemain. Dans cette lettre, la jeune femme apprend qu'à l'époque où elle a été conçue, ses parents ne formaient pas un couple. Ils se protégeaient pendant leur relation et avaient décidé d'opter pour l'avortement quand sa maman est tombée enceinte. Finalement, Shirley Rousseau est née, malgré une procédure d'avortement par curetage. Oui, ça arrive, pas souvent, mais plus souvent que vous ne pourriez le croire. Si je m'étais retrouvée enceinte à 23 ans d'un homme avec qui je n'étais pas en couple, j'aurais probablement pris la même décision. Ma mère était certaine que je reviendrais de ma journée en pleurant ou en tabarnak, m'avoue Shirley. À ce sujet, Shirley précise que, malgré ce qu'on pourrait croire, elle est en faveur de l'avortement. C'est pas un moyen de contraception, mais il y a tellement de circonstances où c'est un choix parfaitement valide. Pour une fille qui s'est fait agresser, comme pour une fille qui n'était juste pas prête ou pas dans les bonnes circonstances pour donner une belle vie à un enfant, affirme-t-elle. Possédant une perspective unique sur la question, c'est difficile de contredire son point de vue. Après tout, Shirley est née. Elle a deux parents aimants, un chum, elle voyage, passe à la télé. Bref, sa vie ressemble à celle dont tous les ados de 16 ans rêvent dès la sortie de l'école. Pourtant, la vie de Shirley a été tout sauf facile. Affronter la vie avec le sourire. Si Shirley affirme ne pas avoir vécu d'intimidation à l'école, elle estime toutefois avoir été victime de plus de discrimination qu'elle ne le perçoit au fil des années. « Il y a des affaires que je vois pas, j'en suis certaine. J'aimerais ça, à un moment donné, faire une vidéo où je me promène avec une caméra dans le dos, question de voir qui se retourne ou qui dit quelque chose sur mon passage. C'est certain qu'il y en a, raconte-t-elle. La discrimination ne s'est cependant pas toujours produite que derrière son dos. Si Shirley se taille une place de plus en plus enviable dans le paysage médiatique québécois, ce n'est pas grâce à son handicap, mais plutôt en dépit de celui-ci. Malgré son talent indéniable, les préjugés la suivent depuis ses débuts dans le métier. J'ai fait des études en radio à Ottawa. J'avais payé la résidence d'avance et tout. La veille de la rentrée, ma mère a contacté l'institution pour expliquer que j'avais un handicap. Ils ont voulu me rencontrer immédiatement pour essayer de me convaincre de changer de programme en prétextant qu'avec la console téléphonique et l'ordinateur, il fallait tous ses membres pour réussir dans le programme. C'était pas dit en ces mots-là, mais ça voulait dire « Tu te rendras pas à la mi-session », se souvient-elle. Pourtant, Charlie ne s'est jamais senti moins à sa place qu'une autre personne qui découvre les rudiments du métier. La mi-session est arrivée et elle est restée. Elle était même l'une des meilleures élèves. Quand je suis allée chercher mon diplôme des mains du directeur 2 ans plus tard, je lui ai dit « Une chance que j'allais pas me rendre à la mi-session, hein ?» me raconte-t-elle fière. L'unicité de Charlie la place constamment en situation où elle doit expliquer qu'elle peut accomplir les mêmes choses que tout le monde, en plus de devoir le prouver. Elle la place aussi dans une position où l'on semble s'intéresser à son handicap plutôt qu'à elle et à son talent, mais ça ne la dérange pas. Je suis différente, c'est mon casting. Je vis bien avec ça et je suis super heureuse de faire un projet comme vestiaire. Je pourrais peut-être pas jouer une chirurgienne dans Stat, mais je pourrais être une secrétaire ou une psychologue. On est rendu là, tu trouves pas? En effet, on est rendu là. Si on se dit tous, en début d'année, « Celle-là, c'est mon année », force est de constater que 2024 déroule vraiment le tapis rouge pour Charlie Rousseau, parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait aussi ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut. On a beau dire que ce ne sont pas toutes les limites qui sont dans la tête, si l'histoire de Charlie a bien quelque chose à nous révéler, c'est que la plupart d'entre elles le sont. C'était « Le fabuleux destin de Charlie Rousseau », un texte de Benoît Lelièvre, paru le 7 avril 2024 dans Urbania.
Vivre avec un handicap à l'université. Un texte d'Alexandra Carrière paru le 20 janvier 2020 dans Urbania. Toi, t'es retardé. Cette phrase, je l'ai entendue 1000 fois quand j'étais à l'école. Les autres élèves ne manquaient jamais une façon de me rappeler comment la société en général perçoit ceux qui vivent avec un handicap physique ou psychologique. Dès ma première année du primaire, j'avais de la difficulté à atteindre la note de passage. Même si les profs me répétaient les règles de grammaire et l'orthographe des mots lors des périodes de récupération, c'est comme si j'étais inapte à les appliquer. J'avais beau aller à l'aide aux devoirs, mes notes continuaient de me piquer du nez. Ce n'est qu'au secondaire où j'ai officiellement reçu mon diagnostic de dysorthographie. C'est une difficulté d'apprentissage qui s'explique par une lésion des aires langagières du cerveau. Elle peut être héréditaire ou causée par une forte commotion cérébrale. Pour comprendre, il faut décortiquer le mot « dys » pour « dysfonction » et « orthographie » pour « orthographe ». La dysorthographie est donc un trouble de l'acquisition de l'expression écrite. Bref, pour les personnes touchées par cette difficulté, comme moi, on est nul en écriture. Non, je blague. Ça nous prend juste plus de temps que la norme pour écrire et nous devons utiliser des supports technologiques afin de corriger nos erreurs. Grâce à mes nouvelles accommodations, incluant mon temps supplémentaire et l'accès à un ordinateur, du jour au lendemain, mes notes se sont améliorées. Et pour la première fois, mes résultats académiques reflétaient réellement mes compétences. C'est à ce moment précis que j'ai finalement compris que j'étais tout aussi intelligente que n'importe quel autre étudiant et étudiante. Par contre, le combat n'était pas fini, car ce n'est pas tous les professeurs qui respectaient mes droits. Puisque les difficultés d'apprentissage étaient un sujet assez nouveau, certains professeurs ne suivaient pas les mesures d'aide nécessaires. il m'est arrivé de rencontrer un professeur qui refusait de me donner mon temps supplémentaire parce qu'il n'en voyait pas la nécessité. À force de toujours devoir expliquer la dysorthographie et justifier mon droit à des accommodations, j'étais devenue hésitante à poursuivre les études supérieures jusqu'à ce que je trouve la bonne école. L'université accommodante. Heureusement, à l'Université du Québec en Outaouais, j'ai pu compter sur le service aux étudiants en situation de handicap, SESH. À chaque rentrée, le SESH invite les nouveaux étudiants qui présentent une déficience neurologique ou organique à prendre rendez-vous avec un des spécialistes en adaptation scolaire. Les besoins de chaque étudiant sont analysés et des accommodements appropriés sont proposés. Chaque service d'accommodement permet aux étudiants de bénéficier de plusieurs supports d'aide technologique selon leurs besoins, tels que l'utilisation d'un ordinateur, d'un logiciel de traitement de texte, d'un logiciel correcteur, de logiciels adaptés, d'un magnétophone numérique, d'un dictionnaire électronique et d'un crayon intelligent. Certains peuvent aussi obtenir plus de temps pour faire un examen ou remettre un travail, porter un casque anti-bruit ou compter sur un intervenant pour prendre des notes. Par exemple, un étudiant qui vit avec le trouble de l'apprentissage de la dyslexie peut avoir le droit à du temps supplémentaire, un ordinateur équipé de logiciels de correction et un lecteur de texte. Ou encore, quelqu'un qui compose avec le trouble du déficit de l'attention aura le droit à du temps supplémentaire, un casque anti-bruit et une salle privée. De plus, les étudiants du SESH peuvent aussi profiter de l'expertise du Centre d'aide en français écrit, CAFÉ, ou du soutien psychologique du Programme d'aide et de référence aux étudiants et étudiantes, PARÉÉ. Ce n'est pas parce qu'on est à l'université et qu'on est des adultes qu'on n'a pas besoin d'aide, assure Annie Gauthier, orthopédagogue au SESH. Sensibiliser les gens à l'enjeu de l'accessibilité académique, le service a tenu à l'automne 2019 la Semaine des étudiants en situation de handicap et espère en faire un événement annuel. Le service souhaite aussi une plus grande collaboration avec les différents organismes de la région. Dans mon cas, le SESH a été un « game changer ». Pour la première fois de mon parcours scolaire, ma voix est écoutée. Avec le soutien des intervenantes spécialisées et des professeurs, je sens que je peux discuter de mes besoins ouvertement et en toute sécurité. Grâce à l'aide, à la prise de notes, au support technologique et au temps supplémentaire pour rédiger mes examens, je réussis très bien mes cours au baccalauréat en sciences sociales. Je pense même entreprendre une maîtrise gestion de projet et je me rapproche tranquillement de mes ambitions. Alors, aux étudiants en situation de handicap, nous sommes peut-être différents, mais nous sommes tout aussi intelligents. Croyons en nous, croyons en nos capacités et continuons de protéger nos droits. C'était « Vivre avec un handicap à l'université », un texte d'Alexandra Carrière, paru le 20 janvier 2020 dans Urbania.
Handicap et inclusion. Le gouvernement du Québec en panne d'idées. Un texte d'un collectif de signataires paru le 11 avril 2024 dans le Journal de Montréal. Alors que l'étude des crédits doit commencer sous peu, nos organisations souhaitent dénoncer le peu d'attention que les personnes handicapées ou vivant des problématiques qui affectent leur santé mentale ont reçu dans le budget provincial 2024-2025. Si le gouvernement a finalement supprimé les pénalités liées au régime des rentes du Québec pour les personnes handicapées, après des années de mobilisation et de démarches devant les tribunaux, et rehaussé significativement le financement du transport adapté, ces mesures étaient les seules qui répondaient à des enjeux spécifiques pour ces personnes. En lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, le gouvernement n'a toujours pas présenté son nouveau plan. Quelques mesures décousues étaient dans le budget, mais il est clair qu'il faudra faire plus pour répondre aux besoins des plus pauvres, y compris de bien des personnes handicapées ou vivant des problématiques qui affectent leur santé mentale. Mesures insuffisantes. Parallèlement, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire avait promis une mise à jour des programmes d'aide sociale à l'automne 2023. Cette nouvelle loi n'a toujours pas été présentée. À la place, le budget prévoit que les prestataires de l'aide sociale pourront récupérer un maigre 10 % de leurs revenus de travail. C'est insuffisant, surtout quand on se compare à d'autres provinces canadiennes où les prestataires peuvent garder jusqu'à 18 000 $ par année. Les personnes handicapées ou vivant des problématiques qui affectent leur santé mentale veulent pouvoir travailler, contribuer à la société et sortir de la pauvreté. La balle est dans le camp du gouvernement pour le leur permettre. Malheureusement, l'inclusion au travail est elle aussi au point mort. La stratégie pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées arrivera à échéance à la fin de l'année et il n'est pas clair si une nouvelle stratégie est en train d'être écrite. Pourtant, sur le terrain, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une nouvelle stratégie ambitieuse. Le vérificateur général du Québec avait d'ailleurs durement critiqué la situation de l'emploi des jeunes personnes handicapées en 2020. Le peu qui est offert ne fonctionne pas ou ne donne pas les résultats escomptés. Là non plus, le budget n'apporte aucune solution. En éducation, l'inclusion en classe régulière a reculé depuis 2018 et les conséquences des négociations difficiles avec le gouvernement se font sentir. Plus que jamais, les services pour les élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage méritent d'être soutenus et financés par l'État. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois dans les dernières années. Pourtant, le budget présenté n'a pas permis aux parents de pousser un soupir de soulagement. Peu ou pas de ressources spécifiques ont été annoncées. Les parents et les travailleuses du réseau scolaire devront encore se contenter de fonds de tiroir pour que leur enfant reçoive une éducation de qualité. C'était « Handicap et inclusion ». Le gouvernement du Québec en panne d'idées. Un texte d'un collectif de signataires paru le 11 avril 2024 dans le Journal de Montréal.